Chapitre 15. Près du malade. Française de tempérament, j'évite autant que possible toute cause de chagrin. Aussi n'ai-je pas le courage de décrire ce qui se passa entre la pauvre aveugle et moi lorsque je rentrai dans notre petit salon. Elle fit couler mes pleurs et je craindrais vraiment de me remettre à pleurer si je vous décrivais toute la douleur qu'éprouva ma pauvre Lucille lorsque je lui rapportai la triste vérité. J'aime mieux n'en pas parler, car je n'aime pas les larmes. Elles rendent le nez rouge, et mon nez est ce que j'ai de mieux dans la figure. Lucille m'accompagna au sable. Pour la première fois, elle semblait envier le don précieux de la vue. À peine arrivée, elle s'installa près du lit d'Oscar pour mieux nous entendre et nous toucher pendant que nous donnions nos soins aux blessés. Elle voulut remplacer Madame Coudrige et changer de ses propres mains les compresses appliquées sur le front du blessé. Elle montra même une certaine jalousie lorsque j'humectais d'eau fraîche le bandeau qui recouvrait la blessure, et ce sentiment l'aurait peut-être poussée, malgré notre présence, à couvrir de baisers le visage inanimé du pauvre Oscar. L'hôtesse des Trois Croix me ressemblait en ce point qu'elle était optimiste. Eh, me dit-elle à l'oreille, la demoiselle en tient pour ce jeune homme. Vous verrez que nous aurons sous peu un mariage à Dymchurch. » Le frère de Madame Guthridge, le seul homme qui se trouvât avec nous, eut l'air tout embarrassé en voyant Lucille soigner si tendrement Oscar et sa sœur me parlait bas. Le brave homme appartenait à cette digne et nombreuse famille de gens fort embarrassés de leurs mains en société et qui ne savent ni entrer ni sortir. J'eus pitié. C'était un si bel homme. « Allez fumer votre pipe dans le jardin, lui dis-je. Nous vous appellerons si nous avons besoin de vous. » Il me jeta un regard reconnaissant et s'échappa comme s'il sortait d'une souricière. Enfin, le médecin arriva. Ses premières paroles nous soulagèrent. « Le crâne n'est pas entamé. Il y a seulement congestion et lésion du cuir chevelu produites par un instrument contondant. » Vous avez appliqué le traitement usité en pareil cas. Quant à la congestion, le temps et les soins en triompheront. Rassurez-vous, mesdames, il n'y a aucun motif d'inquiétude sérieuse. Oscar sortit de son évanouissement et, en ouvrant les yeux, il se mit à regarder autour de lui sans avoir conscience de ce qu'il faisait. Il y avait 5 ou 6 heures que nous l'avions trouvé gisant inanimé sur le plancher de l'atelier. Le pauvre garçon ne reconnaissait personne et battait encore la campagne. Il se croyait toujours couché à terre et criant à Jig de courir chercher du secours, tout en faisant avec son doigt le geste d'écrire. « Va-t'en, Jig !» criait-il. « Cours au presbytère !» Quelques heures après, il s'endormait. Le lendemain, il délira toute la journée et ce ne fut que le 3e jour que la première lueur de raison vint visiter son cerveau. Ce fut Lucille qu'il reconnut tout d'abord. Elle ressentit une joie immense lorsque, lui prenant la main, il murmura son nom. Elle se pencha vers lui et, nous cachant son visage, elle lui dit à l'oreille quelques mots qui ramenèrent le sang aux joues pâles du blessé. Ses yeux brillèrent de joie. Elle m'avoua quelques jours après qu'elle avait simplement dit à Oscar « Si vous m'aimez, dépêchez-vous de guérir ». Elle ne se montra nullement honteuse de lui avoir parlé avec autant de hardiesse. Bien plus, elle s'en félicita. « Laissez-moi faire, disait-elle d'un ton convaincu. Je veux le guérir d'abord, puis devenir sa femme. » À la fin de la semaine, Oscar avait repris l'usage de ses sens, mais il était encore très faible et son état ne s'améliorait que très lentement. Il put cependant nous raconter, en s'y reprenant à plusieurs fois, ce qui s'était passé. Oscar nous raconta donc qu'il était monté à sa chambre après le départ de Madame Goodridge et de sa fille, et qu'il en était redescendu quelques moments après. C'est alors qu'en approchant de l'atelier, il entendit parler à voix basse. Il essaya sans bruit d'ouvrir la porte, mais il la trouva fermée, les malfaiteurs ayant voulu se mettre ainsi en garde contre toute surprise pendant qu'il dévalisait l'atelier. Il n'y avait qu'un moyen de pénétrer dans la salle, c'était celui qui nous avait réussi. Il alla donc dans le jardin, mais il fut fort intrigué en trouvant un cheval et une voiture vides près de la porte. Si la porte de l'atelier n'avait pas été fermée à clé en dedans, il aurait pu croire qu'il avait tout simplement affaire à des visiteurs qui étaient entrés sans avoir été vus. voulant élucider ce mystère, il traversa le jardin, s'approcha de la fenêtre et aperçut devant lui les deux hommes que Jicks avait vus rôder près de la clôture 10 jours auparavant. Il lui tournait le dos et était occupé à lire avec des cordes la fameuse caisse. Ils se retournèrent en l'entendant entrer. Ce vol, commis impudemment en plein jour, excita la colère d'Oscar au point qu'il se précipita sur celui qui se trouvait à sa portée et qui était le plus jeune des deux hommes. Le misérable, évitant le choc par un bond de côté et saisissant un casse-tête posé tout près sur la table en cas d'attaque, lui en asséna un coup sur la tête avant qu'il eût eu le temps de s'arrêter et de faire volte-face. Il ne se rappelait plus rien jusqu'au moment où il était sorti de l'évanouissement causé par le coup de casse-tête. Il se retrouva, en rouvrant les yeux, étendu par terre, tout étourdi et perdant son sang. C'est alors qu'il avait aperçu Jicks, qui le regardait, immobile de terreur. L'idée lui vint instinctivement de s'en servir, puisqu'elle était le seul être vivant à sa portée, pour donner l'alarme. Il parvint, non sans peine, à l'attirer près de lui, et il écrivit, en trempant le doigt dans son propre sang, les mots terribles que j'avais déchiffrés sur la blouse blanche de Jicks. Puis, dans un dernier effort, il avait poussé de la main vers la porte vitrée restée entr'ouverte, en lui disant d'aller au presbytère. Au moment où il lui criait une dernière fois de courir chez sa mère, il retomba épuisé, mais non sans avoir cru apercevoir, au milieu de l'atelier, l'enfant affolé par la peur. Il ignorait combien de temps elle avait pu y rester avant de reprendre courage et de courir au presbytère, et ce qui se passa jusqu'au moment où, comme nous l'avons raconté, il eut une perception confuse de la présence de Lucille à son chevet. On raccorda le récit d'Oscar avec le résultat des recherches de la police. La justice mit tout en action pour retrouver les coupables et le village fut longtemps en émoi. Jamais recherches aussi minutieuses n'aboutirent à un résultat aussi nul. On ne découvrit absolument rien en dehors de ce que j'avais déjà découvert. C'était bien comme je l'avais prévu. Le vol avait été prémédité de longue date, et quoique nul des habitants du presbytère ne les eût aperçus, on eut la preuve convaincante que les voleurs avaient traversé Dymchurch le jour même où les malheureuses plaques étaient arrivées au sable. Les deux bandits avaient d'abord étudié à loisir les abords et les habitudes de la maison, puis ils étaient revenus à Dymchurch pour mettre leur projet à exécution. C'est ce jour-là que nous les avions surpris et ils avaient été déçus dans leur espérance en voyant Oscar réexpédier la caisse à Londres. Après avoir attendu quelques jours, ils avaient suivi les plaques renvoyées par le fondeur et ils avaient enfin pu exécuter leur projet grâce à l'isolement de la maison et au coup porté à Oscar. De nombreux témoins les avaient aperçus revenant à Brighton avec le produit de leur vol. Mais en arrivant chez le loueur de voitures, ils n'avaient plus le colis en leur possession et il est plus que probable que des complices, embusqués aux abords de la gare, l'avaient déchargé pour le mettre parmi les autres colis qui encombraient la gare et dérouter ainsi tout soupçon. Telle était, à tort ou à raison, l'explication que nous donna la police. Mais ce qui est parfaitement sûr, c'est qu'on ne put mettre la main sur les coupables et que le vol des plaques et l'assassinat d'Oscar peuvent être ajoutés à la liste déjà longue des crimes conçus et exécutés avec assez d'habileté pour échapper à la rigueur des lois. Nous résolûmes, Lucille la première, de ne pas nous lamenter inutilement et de considérer comme un bonheur qu'il ne fût pas arrivé quelque chose de pire à Oscar. Puisque le mal était fait, il fallait en prendre son parti. C'est ainsi que nous prîmes philosophiquement les choses, tandis que notre malade marchait vers une guérison complète. Nous nous flattions de nous montrer fort sages. Pauvres sottes que nous étions toutes les deux, et que nous nous doutions peu de l'issue fatale de l'accident. Le mal, au lieu de finir, ne faisait que commencer, et nous devions tous, à Dymchurch, assister dans la crainte et la désolation aux suites de ce crime.